Là, c'est bon, ouais. On va commencer ce festival du livre avec une discussion sur les ludites. D'abord, je vais nous présenter. Il y a Célia Isoard à ma droite, qui est journaliste indépendante. Elle a notamment contribué à la revue Z, dont il y aura une présentation du dernier numéro demain ou après-demain, je sais plus. Ou à Reporter, entre autres. Elle a publié récemment La ruée minière au XXIe siècle. Vous pourrez en trouver des exemplaires à la distro là-bas. Elle a traduit et préfacé ce livre, La révolte ludite de Kirkpatrick Sale, qui est un peu un des ouvrages de référence sur le sujet. Et puis elle présentera demain ses travaux sur. C'est demain ou après-demain? Pardon, j'ai pas le problème. Demain, ses travaux sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc Célia, elle va beaucoup intervenir ce week-end. On pensait au départ inviter aussi François Jarige, qui est peut-être le principal spécialiste du sujet en France et qui habite à côté de Dijon en fait, mais malheureusement il était déjà pris et donc il n'a pas pu venir. Et vous devrez vous contenter de ses anciens élèves, c'est-à-dire Maël et moi. Voilà. Alors pourquoi on a voulu commencer avec une discussion sur les ludites? D'abord pour introduire le sujet avec une histoire, quoi, une histoire un peu à raconter, avant de rentrer dans le plus dur du théorique de la critique des technologies. Et aussi parce que c'est une histoire qui se passe vraiment à l'aube de la révolution industrielle et que c'est une des premières grandes luttes contre l'imposition des technologies et une des plus radicales qui existait. Voilà. Donc cette discussion, on va avoir trois interventions. Ensuite, il y aura un temps pour vos questions, mais voilà, faut pas hésiter à nous interrompre pour poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires ou quoi. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, je vais passer la parole à Maëlle.
Bonsoir. Du coup, moi, je voulais commencer par vous lire un extrait du chapitre 1 de La révolte ludite, parce que ça paraissait être une bonne introduction. Il l'a choisi comme premier chapitre, donc voilà. Il était à peu près minuit et demi, un dimanche d'avril 1812. Une soixantaine d'hommes du Yorkshire achevaient de descendre le chemin creusé d'ornières menant à un lieu dénommé la manufacture de Raw Falls, un bâtiment dressé sur plusieurs étages, protégé par un mur d'enceinte et un portail, abritant les laineuses mécaniques détestées du tout aussi détesté William Cartwright. Manifestement constitué en brigade militaire, quoique débraillé après avoir marché 1 heure dans la nuit, encore hivernale, ces hommes au visage noirci au charbon et masqués par des fichus se préparaient à l'attaque. À l'avant, plusieurs lignes armées de pistolets et de fusils rudimentaires. Derrière eux, des rangées d'hommes munis de haches et de ces grands marteaux Enoch utilisés par les forgerons. Au fond, un certain nombre d'hommes équipés de toute la panoplie d'armes que l'on put trouver dans un village anglais, des masses, des piques, des gourdins et même des pierres. Et maintenant, libérez le passage. L'ordre fut lancé par un certain George Mellor, tondeur de laine de 24 ans, ou cropper dans le jargon du Yorkshire. C'était un homme grand et bien bâti, portant une courte barbe brune, employé à l'atelier de John Woods à Huddersfield, à 8 km de là. La région comptait alors environ 5 000 tondeurs. Ces artisans, en général mieux payés que la moyenne et réputés pour leur fierté et leur indépendance, avaient été heurtés de plein fouet par la crise qui avait mis la moitié d'entre eux au chômage. Comme le reste de la population, ils subissaient l'inflation résultant de la guerre et n'avaient pas de quoi acheter les denrées les plus élémentaires. Ils savaient mieux que personne ce que représentait la fabrique de Cartwright. Leur cible, cette nuit-là, derrière le portail, derrière les murs blanchis à la chaux qu'éclairait la lune, se trouvaient 50 machines de finissage, des tondeuses mécaniques, fonctionnant sans effort grâce aux torrents voisins. Chacune d'entre elles fournissait plus de travail que 4 ou 5 tondeurs, l'ensemble pouvant mettre plusieurs centaines de George Mellor sur la paille pour toujours. En plus de cela, en divers endroits de ce Yorkshire occidental se trouvaient une bonne demi-douzaine de fabriques semblables à celle-ci. Quelques-unes, alimentées par la nouvelle machine à vapeur de Watt, et l'on avait installé plus d'un millier de tondeuses mécaniques depuis 3 ans que le gouvernement n'en limitait plus l'usage. Enfin, derrière ce portail, dans l'office des comptes exigus au fond de l'usine, se trouvait l'odieux Cartwright, un homme réservé d'une trentaine d'années, yeux sombres dans un visage pâle, connu pour ne jamais boire une goutte d'alcool. Étranger à la région, plus étranger qu'anglais, comme on disait alentour. Il avait la réputation d'être un si ardent défenseur de ces nouvelles machines de finissage qu'il avait dormi dans sa fabrique chaque nuit des 6 semaines précédentes. Les tondeurs n'étaient pas les seuls à se sentir menacés par la manufacture de Raffles. Parmi ces personnes révoltées se trouvaient aussi des tisserands, des peigneurs de laine et même des forgerons, craignant non seulement que la machine et l'usine ne les remplacent, mais aussi que la culture traditionnelle du cottage qu'ils avaient toujours connue ne disparaisse elle aussi. Près de 300 usines textiles s'étaient implantées dans le Yorkshire en à peine 22 ans. L'industrie supplantait déjà l'artisanat dans plusieurs métiers, qui pouvait prédire le nombre d'usines encore à venir. Il n'était pas seulement confronté à l'industrie, mais à l'ensemble du système industriel tel qu'il s'implantait alors de part et d'autre de la chaîne pénine. Un travail incessant, découpé en horaires, une surveillance implacable, autant de choses qui les feraient passer de la condition d'artisan fier, héritier d'une longue tradition d'autonomie et de métier, à celui de salarié esclave. Surgissait en fait un monde presque entièrement régi par la machine. Elle viendrait détrôner les formes de vie et de travail qui semblaient à la fois justes et dans l'ordre des choses, effacer les modes de relations qui avaient cours dans les foyers et sur les marchés de village et renverser l'appréciation habituelle d'un salaire honnête, d'un bon prix et d'un juste prix, d'un bon produit et d'un juste prix. Tout cela au bénéfice de relations fondées sur la puissance et le capital et d'une morale qui tenait, comme on le découvrirait, le profit pour valeur suprême. Voilà, je pourrais m'arrêter là, on sait tout, mais comme on m'a demandé de parler un petit peu plus longtemps, je vais continuer. Et du coup... Alors, bon, voilà, on a planté le décor, Angleterre, début du 19e, milieu rural, industrie textile. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est le plus grand contexte derrière, le bouleversement qui est à l'œuvre et sur lequel on doit revenir pour comprendre tous les enjeux qui sont autour des ludites. C'est la première révolution industrielle. Donc, première révolution industrielle, c'est le passage d'une société paysanne et artisanale à une société industrielle, qui est lié notamment à l'apparition de la machine à vapeur et dont on situe le début en 1760-1770. C'est un bouleversement économique et social qui, en 45 ans à peu près, a complètement modifié le rapport au travail et par bien des manières aussi le rapport au monde. Alors, même si les historiens ont tendance aujourd'hui à vouloir casser le mythe selon lequel la révolution industrielle aurait été un événement brutal qui serait inattendu, qui aurait tout renversé sur son passage sans quelconque forme de résistance. Justement, c'est important de parler des résistances, voilà, mais malgré tout, malgré cette volonté des historiens, si le processus de la révolution industrielle il a été aussi marquant, c'est notamment par sa rapidité et la rapidité avec laquelle il a bouleversé la société anglaise. Donc, la machine à vapeur, développée en 1776 par Watt et Boulton, s'est répandue dans la société à une vitesse délirante et son utilisation a engendré dans la société un changement de paradigme. Pour la première fois dans l'histoire, on entrait dans une ère où les humains étaient assurés d'avoir à disposition une source d'énergie capable de produire rapidement et avec très peu d'efforts une variété infinie d'objets, à la seule condition de disposer de charbon et de métaux. C'est ce qui a engendré le passage d'une économie organique fondée sur la terre, le labeur et les échanges commerciaux à une économie mécanique reposant sur les combustibles, l'usine et le commerce international. C'est la première fois que les machines prenaient une place aussi centrale dans une société humaine. Et c'est dans l'industrie du textile que les machines se sont implantées en premier et de la manière la plus forte. L'industrie textile étant l'industrie traditionnelle du triangle qu'on pourrait appeler celui du triangle des ludites, qui est à savoir une zone triangulaire à cheval sur le Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire et le Nottinghamshire. Triangle que vous avez peut-être déjà, dont vous avez déjà entendu parler, puisque c'est aussi celle de la légende de Robin des Bois. Mais passons. Donc, les machines se sont développées d'abord dans l'industrie textile et à une vitesse hallucinante. En 1800, à peu près 10 ans après l'introduction de la machine à vapeur, on en comptait 2191 dans toute l'Angleterre, dont 460 dans la seule industrie textile. Mais la mécanisation était déjà à l'œuvre dans l'industrie textile avant la machine à vapeur. Et pour prendre un autre exemple de machine qui a participé au processus, on peut parler de la spinning jenny, inventée en 1765 par James Hargreaves, un tisserand du Lancashire. Alors, il s'agissait d'une machine à filer qui était capable de filer, enfin de produire 8 fils de coton à la fois au lieu d'un. Et si James Hargreaves a gardé le secret de son invention au départ, la spinning jenny n'a pas tardé à faire son apparition dans de nombreuses usines. Et en 1810, elle a été surpassée par une nouvelle machine, la spinning mule, qui, elle, pouvait produire 48 fils de coton à la fois. Et cette machine s'est répandue à une telle vitesse qu'on comptait en 1825 50 millions de spinning mules dans tout le Lancashire, qui étaient devenus les tisserands, eux. Cette mécanisation exponentielle, elle était donc une menace pour les artisans et ouvriers du textile qui, dès l'apparition des spinning jenny, les ont pris pour cible et les ont détruits, puisque les ludites en fait, ne sont pas les premiers briseurs de machines. On recense des épisodes de bris de machines en Angleterre depuis la fin du XVIIe. Et d'ailleurs, l'histoire de Ned Ludd, ce chef charismatique légendaire des ludites, serait, semble-t-il, un tisserand qui, dès 1779, aurait cassé le cadre d'un métier à tisser à l'aide d'un marteau. Mais donc, pour revenir à l'industrie textile en Angleterre, c'est une industrie qui s'est développée à la fin du XVIIIe, dans une forme de proto-industrie d'abord. Les paysans à la campagne avaient des métiers à tisser chez eux et ont trouvé avec cette nouvelle industrie une forme de complément de revenus. L'industrie textile fonctionnait alors sur le modèle de la cottage industry, c'est-à-dire des producteurs locaux qui s'associaient ensemble pour vendre leur production et avoir plus de poids sur le marché dans les négociations et la concurrence. Un modèle proto-industriel qui du coup restait implanté dans les campagnes, puisqu'à cette époque c'est dans les campagnes qu'on trouvait les sources de production et donc de richesse, et c'est aussi dans les campagnes qu'existaient des tissus de solidarité et d'entraide qui permettaient dans chaque communauté des formes d'autosubsistance. Alors, la proto-industrialisation du 18e, ça a été une phase plutôt d'enrichissement pour les paysans artisans et qui s'est observée dans la société par une forte croissance démographique. Et à ce moment-là, les ouvriers artisans étaient propriétaires d'un savoir et ne subissaient pas vraiment de rapport salarial ou de subordination hiérarchique dans leur organisation quotidienne du travail, même si évidemment le marché produit des rapports inégaux. Mais avec l'essor de la révolution industrielle et le perfectionnement des machines, les artisans travaillant seuls chez eux n'ont plus été capables de suivre la concurrence et la proto-industrie a disparu petit à petit. En plus de cet essor de la révolution industrielle, s'est ajoutée la politique des enclosures. J'ai imprimé et la machine a fait n'importe quoi, donc voilà encore un problème de la machine. Oui, la politique des enclosures, donc, je reprends. Donc, avec cette révolution industrielle, on produit toujours plus. Et si on produit plus, on a besoin que la société consomme davantage. Et les îlots de vie communautaires, ruraux et autosubsistants sont clairement des freins à la consommation. Et c'est là que les enclosures interviennent. Enclosure ou remembrement, c'est-à-dire c'est une opération qui consiste à faire disparaître les petites parcelles de terre pour constituer de plus grandes exploitations agricoles. Et donc les enclosures sont venues achever un monde paysan déjà en grande difficulté. La propriété collective des terrains communaux a été réduite au minimum et les terres rachetées, clôturées, cultivées ou mises en pâture au profit des personnes privées. Pour le coup, le remembrement a été efficace. Entre 1750 et 1840, la production de céréales a doublé, mais cette production agricole était à présent quasi totalement commerciale. Les terres d'usage collectif dont on tirait avant une agriculture de subsistance devinrent les exploitations privées, très lucratives, de quelques seigneurs. L'industrialisation continue donc à avancer et quasi toutes les machines, grosses, imposantes et coûteuses, ont été déménagées en ville dans des usines où l'on a concentré les travailleurs pour mieux organiser leur travail et le rendre plus productif. et les paysans artisans ruraux, appauvris par la concurrence et la disparition des activités paysannes, se sont rendus en ville pour vendre leur force de travail dans des usines où les machines donnaient la cadence. La révolte des ludites, donc, enfin on y arrive, intervient à peu près au milieu du processus, en 1811-1812, à un moment où les changements à l'œuvre étaient déjà assez visibles pour en comprendre la menace, mais où il semblait peut-être encore possible d'arrêter la machine. Et c'est à la fin de l'année 1811 que des ouvriers commencent à envoyer des lettres de menace contre les industriels installant des machines dans leurs ateliers. Et toutes ces lettres, ils les signent du nom d'un mystérieux personnage, Ned Ludd, Général Ludd ou encore Roi Ludd. Alors cette figure mystérieuse, légendaire ou non, elle était avant tout un moyen pour les ouvriers dans un contexte politique extrêmement répressif, où à l'époque les ouvriers n'avaient pas le droit de se réunir et encore moins le droit de cesser le travail. Et donc c'est un moyen pour eux de protéger leur identité. Dans ces lettres, les ouvriers dénoncent les machines en développant un discours autour de la mauvaise qualité du travail produit par les machines et défendent l'idée que si les machines dégradent la qualité des productions, cela viendra affaiblir les producteurs anglais sur les marchés internationaux. Dans plusieurs cas, après ces lettres de menace, les ludites se sont donc rendus dans les usines afin de stopper les machines eux-mêmes en les détruisant. Alors si le bruit de machine est le geste qu'on retient le plus du mouvement ludite parce qu'il est le plus spectaculaire, le ludisme c'est aussi plein d'autres choses. C'est un mouvement qui porte aussi des revendications plus larges, des revendications salariales, des revendications corporatistes en défendant l'ancienne organisation du travail. Et c'est aussi un mouvement dans lequel il y a eu des émeutes de la faim, certains se soulevant contre ceux qu'on appelait les accapareurs de grains. Mais c'est donc la question de la destruction des machines qui a le plus accaparé l'attention, et cela notamment car on est à une période, donc au cœur de la révolution industrielle, où justement la machine prend de plus en plus de place et suscite beaucoup plus d'attention, de fascination et de curiosité dans la société. S'en prendre finalement à ce qu'on présente alors comme le progrès technique paraît donc le plus étrange, le plus questionnant et le plus répréhensible. Cette révolte ludite, je vous ai parlé de l'industrie textile, tout ça, parce qu'elle part des artisans du textile qui étaient, on l'a vu, le plus touchés par la mécanisation. Mais il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, le terme artisan du textile, il peut recouvrir plusieurs réalités très différentes. C'est ceux qui sont plus mentionnés dans l'extrait que j'ai lu au début, mais les tondeurs de draps du Yorkshire, qui sont des artisans, des tendeurs d'un savoir très complexe, qui interviennent à la fin du processus de production et qui sont donc le plus souvent assez bien payés parce qu'ils ont plus de levier, ils peuvent plus faire grève, donc ils remportent plus de choses dans les négociations. Et du coup, ces tondeurs de draps, ils travaillent plutôt dans des petits ateliers. Et de l'autre côté, on a aussi dans tout ce panel de ludites, on a aussi les ouvriers du coton du Lancashire qui ont été pour le coup les premiers ouvriers prolétarisés. Ouvriers prolétarisés au sens du marxisme, c'est-à-dire des ouvriers qui travaillent quasiment à la chaîne et qui réalisent un travail qui ne nécessite pas de savoir-faire. Le ludisme agrégé donc des personnes est très différente et unifié des luttes très différentes dans un enracinement social et professionnel très différent. Et autour de ces... Pardon. Bref, je continue. Le terme des ludites est repris assez rapidement comme étendard de la lutte. Et au vu des actions spectaculaires menées dans les usines, la presse se met rapidement à en parler de plus en plus largement, ce qui finalement contribue à l'expansion du mouvement. Et des ouvriers des autres régions d'Angleterre se mettent à reprendre à leur compte le ludisme, ce qui aurait pu rester des émeutes dispersé dans les campagnes et les petites villes industrielles, va donc devenir un mouvement à une échelle nationale. Et à partir de 1812, les autorités commencent à avoir l'impression qu'il existerait dans toute l'Angleterre une sorte d'armée clandestine coordonnée par un certain général Ludd. Et donc c'est la panique. C'est en plus un moment où le gouvernement britannique a peur de la contagion révolutionnaire et du républicanisme français, d'autant qu'il existe également en Angleterre à ce moment-là un républicanisme assez important, bien que le parti radical soit à l'époque dans la clandestinité. Donc voilà, face à cette peur, les autorités ont peur que, non, face à ces révoltes, les autorités ont peur que ce soit le début en réalité d'une révolution plus large avec des revendications politiques. Et au Parlement, qu'on soit conservateur ou libéraux, tout le monde craint le souffle révolutionnaire et le consensus n'est donc pas difficile à obtenir au moment d'écraser ces révoltes. Et on vote alors une législation d'exception, on organise une répression jusqu'alors sans commune mesure, et en février 1812, est votée une loi qui punit la destruction des métiers à tisser de la peine de mort. Une répression et une sévérité qui participent aussi de la notoriété des luddites. Mais pour aller plus loin, je vais passer la parole à Célia.
Ok, mais bonsoir. Donc prendre le relais de toutes ces explications. On est donc en 1812. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, comme tu l'as bien expliqué, c'est un grand mouvement populaire. Alors il y a une dimension à la fois paysanne très forte, ce qui veut dire que c'est vraiment des communautés paysannes et artisanales qui se révoltent contre l'industrialisation. Donc ça veut dire des hommes et des femmes, et en fait des villages, quoi. Une dimension villageoise, et ils vont attaquer des usines et casser des machines. Mais apparemment, c'est pas le seul mode d'action, mais c'est celui qui est resté, parce qu'il y a cette image du marteau Enoch qui est brandi, qui va casser le métier à tisser, mais il y avait aussi toute une partie légaliste, en fait, dans le mouvement luddite, qui consistait, je le dis en passant, mais à envoyer des pétitions, ça s'appelait vraiment comme ça, des pétitions, pour essayer d'obtenir l'interruption de ce qui était en train de se passer. Et ce qui était en train de se passer, c'est quoi? C'est vraiment le passage à un tout autre régime de production. On passe d'un régime de production où la technique est détenue par les corporations de métiers, où la technique est détenue de manière finalement assez organique par des organisations professionnelles qui réglemente elle-même ce qui est produit, à quel prix ça sera vendu, etc., à un système dans lequel la technique est détenue par la bourgeoisie. C'est pour ça qu'on dit que c'est la naissance du capitalisme industriel, c'est-à-dire que la bourgeoisie va finalement fabriquer elle-même la technique. C'est le grand passage, peut-être on en rediscutera. Donc il y a tout ce versant aussi légaliste pour empêcher cette déréglementation. Normalement, on n'a pas le droit de faire travailler plus de tant de personnes dans des ateliers. On n'a pas le droit de faire travailler plus de tant d'heures. On n'a pas le droit de faire travailler des femmes dans ces conditions. On n'a pas le droit de. Enfin, voilà. En fait, il y a un côté que nous on a connu avec le néolibéralisme. Il y a un côté déréglementation dans ce qu'ils vivent à cette époque, qu'ils appellent la nouvelle économie. Et en fait, les luddites, ce sont des communautés paysannes et professionnelles qui essayent d'obtenir que s'arrête cette nouvelle économie, qui est en fait le capitalisme. On l'appelle à l'époque la nouvelle économie. Et donc, il y a la dimension, la paysannerie dans laquelle le travail artisanal est intégré. Et donc, il y a des gens qui, par exemple, sont agriculteurs, agricultrices, enfin, des familles paysannes, où pendant leur veillée, ils vont avoir un travail de tisserand, ils vont avoir un travail de tricot, etc. Et c'est un revenu d'appoint, d'un côté. Donc une activité, disons, une sorte de polyculture, hein. Et puis, il y a aussi une dimension corporatiste, dont tu as parlé au travers, par exemple, des tondeurs de laine, où là, clairement, c'est des corporations de métiers. Qui ont du pouvoir social, du pouvoir technique, et il n'est pas question que des entrepreneurs, des patrons d'usines viennent réglementer, régenter la technique. La technique, c'est eux. La technique, c'est ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc là, ben, on leur dit, en fait, non, c'est pas vous la technique. La technique, c'est des usines qu'on va créer. Et éventuellement, on va vous employer à bas prix. Bon, ben, après, un scénario qui s'est produit dans beaucoup de pays plus tard, ensuite. Hein. Donc ça, ça génère beaucoup de résistance. Et dans ce contexte, il y a aussi la dimension coloniale qu'il ne faut pas oublier. Finalement, les ludites, à ce moment-là, ils résistent aussi à leur intégration dans une économie coloniale, puisque le centre de l'Angleterre devient l'épicentre du lieu où sont importées les cotonnades qui viennent d'Inde, où elles vont être transformées en tissus et ensuite utilisées comme produit d'appel pour avoir des esclaves pour alimenter le commerce triangulaire. Donc il y a aussi toute cette dimension où il y a une économie locale, la laine, les moutons locaux, le lin, etc., qui va s'opposer à une économie mondialisée fondée sur l'importation de coton brut pour fabriquer du coton à échelle industrielle. Et alors, qu'est-ce qui se passe en 1812? Parce que moi, on m'a demandé... Alors, en 1812, il y a une figure qui apparaît, parce que jusqu'ici, on est dans un mouvement extrêmement populaire, et bien sûr, comme vous l'imaginez, dans la société anglaise de l'époque, il y a une fracture abyssal entre le peuple et la bourgeoisie et l'aristocratie. Ce sont des mondes séparés, ils parlent des langues presque différentes, tout ça c'est très très lointain. Et à cette époque-là, il y a un mouvement intellectuel et artistique qui résiste à l'industrialisation, qui résiste à la fois, qui est sensible à la fois à la violence en fait inouïe qui est mobilisée contre les populations pour faire cette industrialisation et pour mener ce que Marx appelait l'accumulation primitive, exproprier les gens de leurs moyens de subsistance, et qui est sensible aussi à l'enlaidissement global général du monde, donc un mouvement, ce qu'on appelle le romantisme. Et une figure de ce mouvement romantique, c'est le poète anglais Byron, qui, en 1812, est un jeune type avec un pied beau, qui vient d'une famille un peu fauchée de l'aristocratie anglaise, mais qui, néanmoins, du fait de ce statut, va intégrer la Chambre des Lords. Et lui, il se trouve qu'il est originaire du Nottinghamshire, donc cette région de Nottingham, où les plus féroces batailles ludiques ont lieu. Donc bataille à la fois briser des machines dans des manufactures, mais aussi des émeutes de la faim. Et puis on va aller piller l'arsenal de la police locale. Et puis on va aller piller les réserves de pommes de terre. Enfin, il y a tout un côté émeutier. Et puis aussi assez carnavalesque à toutes ces actions. Hein. C'est pas juste aller casser des machines ou faire des incendies des nouvelles usines. Et donc Lord Byron, il voit tout ça, il se tient au courant, et il décide que son premier discours, son discours inaugural à la Chambre des Lords, sera consacré à la défense des ludites. Alors, moi je le souligne parce que c'est quand même intéressant, il n'y a pas beaucoup de figures connues, et même d'une autre classe que celle des milieux populaires et ouvriers qui pris publiquement la défense des ludites à cette époque de manière aussi ouverte. Mais où est mon livre? Ah oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Byron? Alors, Byron, il est, donc c'est son premier discours, donc c'est aussi une espèce de concours d'éloquence. Hein, et il se moque du déploiement de l'armée dans les années 1810. De plus en plus de soldats sont envoyés dans les campagnes, réprimer tout le monde. Il faut faire une sorte de traque systématique qui est compliquée parce qu'en fait c'est la population entière qui résiste. C'est pas juste une poignée d'hommes ligués par un serment. Donc il y a une sorte d'opération contre-insurrectionnelle qui est menée par l'armée anglaise. Et elle est absolument inefficace. Et Byron, dans son discours, dit « Que de marches et de contre-marches, de Nottingham à Bulwell, de Bulwell à Banford, de Banford à Mansfield. Et quand les contingents finissaient par arriver à destination, avec toute la fierté, la pompe et l'apparat d'une guerre glorieuse, c'était juste à temps pour constater les dégâts, reconnaître que leurs auteurs s'étaient échappés, ramasser les débris des métiers à tisser et regagner leur quartier sous les rires de vieilles femmes et les sifflets des enfants. » Et puis, donc l'objet du discours, c'est de lutter contre la nouvelle loi qui va être adoptée, qui punit de peine de mort le bris de machine, le bris, en l'occurrence, de métier à tisser. Et donc, son plaidoyer porte là-dessus. Votre code pénal n'est-il assez sanguinaire que vous dussiez verser encore le sang pour forcer les cieux à vous condamner ? Que ne mettrez-vous en œuvre pour faire appliquer la loi ? Pouvez-vous remplir les prisons du pays de tous ses habitants ? Érigerez-vous un gibet dans chaque champ et y pendrez-vous des hommes tels des épouvantails ? Ou bien procéderez-vous par décimation ? Placerez-vous le pays sous la loi martiale ? Allez-vous dépeupler et répandre autour de vous le désert ? Pourquoi ne pas faire cadeau de la forêt de Sherwood à la couronne, afin qu'elle redevienne un terrain de chasse royale et un refuge pour les criminels ? Sont-ce là des remèdes à apporter à la populace affamée et désespérée ? Les misérables décharnés qui ont bravé vos baïonnettes seront-ils effrayés par vos gibets ? Ceux pour qui la mort est un soulagement et le seul que vous offrez, seront-ils contraints à la tranquillité par vos dragonnades ? Vos bourreaux réussiront-ils là où vos brigadiers et vos grenadiers ont échoué ? Bon, eh ben, ça n'a pas marché. Byron était très très seul dans cette croisade. Et puis la loi a été votée, donc punissant de mort les bris de machine. Donc le procès qui a suivi était un procès d'assises. Bon, la loi n'avait pas encore été adoptée, donc comme pendant cette période, en gros, les personnes qui avaient participé aux émeutes et tout ça ont été envoyées en déportation en Australie, dans un premier temps. Et oui, la colonisation par la déportation. C'est ça. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu des pendaisons. Alors, Byron, lui, il l'avait très mauvaise. Et il a rédigé ensuite, de manière anonyme, un poème qui a été publié dans le Morning Chronicle, c'était un grand journal anglais. Dans un ton qui rappelle un peu les tracts qu'on pourrait écrire, finalement, à vraiment de l'amertume. Il dit, donc anonyme, les gens lisent ça dans le journal, « Ces gueux, les tisserands, sèment maintenant la panique. Ils appellent à l'aide au nom de la charité. Pendez-les donc par grappe autour de chaque fabrique. Cela mettra fin très vite à l'absurdité. Les scélérats pourraient les pousser à voler. Sûr, ces chiens n'ont rien à se mettre sous la dent. » Et si on peut les pendre pour une bobine cassée, le gouvernement économisera sa viande et son argent. On a plus vite fait des hommes que des machines, et les bas rapportent plus que les vies. À Sherwood, les gibets embelliront les collines, signe que, comme le commerce, la liberté fleurit. Certains en seront sûrement restés sans voix. Quand la famine rôde, quand la misère grogne, la vie peut valoir moins qu'un bas. Et à qui brise un métier, on brise la nuque. En ce cas, j'espère, par ces quelques mots, et sur cet espoir qui ne s'accorde, qu'en premier seront cassés les métiers de ces sots à qui l'on demande un remède et qui envoie une corde. Alors, peut-être ce poème-là mérite quelques explications. Est-ce que ça vous paraît clair, ce qu'il raconte Byron dans ce poème ? Oui, non. Alors, il parle des bas. Et les bas rapportent plus que les vies. Alors, les bas, c'est vraiment des bas pour les jambes. Parce qu'il y avait tout un corps de métier qui s'occupait à tricoter des bas. C'était très, très important. Et en fait, les bonnetiers bonnetière. C'est un des corps de métier qui a le plus souffert de l'installation des machines dès cette époque. Pourquoi on parle de Sherwood ? Bah, tu l'as bien expliqué. C'était la forêt de Robin des Bois, en fait. C'était vraiment le ludisme, de manière très ironique, est apparu dans cet endroit où, dès le XIIIe et le XIVe siècle, les gens résistaient aux politiques des enclosures et avaient fondé des espèces de petites brigades et dépouillaient les riches pour redistribuer l'argent parce qu'ils considéraient que déjà à l'époque, finalement, les prémices d'un système marchand étaient en train de les dépouiller de leurs moyens de subsistance. Voilà. Je me disais qu'on pouvait lire ce poème en anglais, mais en même temps, c'est pas très... C'est déjà pas si clair en français, donc on va pas... Donc les métiers, c'est les métiers à tisser, hein, clairement. Et pas les... Voilà. Ben, je te passe la parole pour compléter.
Moi, je voulais parler un peu de la postérité de ce mouvement, comment il a été compris et interprété dans les deux siècles qui ont suivi jusqu'à nos jours. D'abord, je voudrais revenir sur ce point, sur le fait qu'a bien été souligné par Maëlle et Célia, que c'est des communautés villageoises qui se battent contre l'arrivée de ces machines et qui ont un sentiment de... En fait, leurs relations, elles sont basées sur la coutume, sur une loi orale. Elles ont un sentiment avec l'arrivée de ces machines que c'est vraiment leurs droits qui sont bafoués et ça se retrouve à travers la figure de Ned Ludd qui est désigné dans les textes des Luddites comme le justicier, comme le grand exécuteur ou comme le défenseur de la coutume et de la loi. C'est que en fait à l'époque les normes collectives elles s'expriment pas à travers des institutions qui sont en dehors de la communauté comme la bureaucratie ou l'administration de l'État quoi. Alors cette figure de Ned Ludd elle a été opposée à plusieurs autres figures de la même époque. Il y en a une qui est apparue peu de temps avant, c'est la figure de John Bull, qui est un équivalent de l'oncle Sam pour les Anglais. En gros, John Bull, c'est vraiment la figure patriotique. En gros, pour vous le décrire aujourd'hui, ce serait un gros céréalier de la FNSEA, quoi. C'est un paysan assez aisé, très conservateur, qui est plutôt un soutien de la royauté anti-républicain et tout. En fait, ça a parfois été interprété, la figure de Ned Ludd, comme la réponse des communautés villageoises à cette figure de John Bull qui était imposée par le haut, par les élites intellectuelles conservatrices. Et donc, il y a une autre figure qui a été aussi déjà évoquée avant et qui est une figure locale, mais beaucoup plus ancienne et qui a traversé les âges jusqu'à nos jours, c'est celle de Robin des Bois. Qui est apparu à la même époque, enfin non, qui est apparu au même endroit, pardon, et qui lui, contrairement à Ned Ludd, comme on sait, il vole aux riches pour donner aux pauvres, et c'est plutôt cette figure-là qu'on a retenue jusqu'à nos jours et qui incarne plutôt une figure du mouvement socialiste ou du communisme. Alors ça nous amène à ce sujet-là, quoi. C'est que en fait, c'est le mouvement ludite, c'est le premier gros mouvement ouvrier de l'histoire. En tout cas, c'est le premier qui a vraiment marqué les esprits durablement. Et malgré ça, en fait, il va plutôt, par la suite, être pris comme un contre-exemple. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est que, en fait, on l'a vu, il s'est fait écraser. Il y a eu comme le disait Célia, il y a l'armée qui a été envoyée. C'est des armées qui étaient plus grosses que certaines armées qui à l'époque étaient envoyées dans les guerres napoléoniennes, pour vous donner une idée, genre 12 000 soldats dans les campagnes anglaises, dans un petit bout de campagne anglaise. Donc il y a eu des dizaines d'exilés, plein de morts, on l'a vu aussi. Et puis, En fait, à la fin, les machines, elles se sont imposées. Les machines, elles sont arrivées dans les campagnes, dans les bourgs. Ça a fait disparaître les métiers pour lesquels les gens s'étaient battus. Ça a fait disparaître des communautés villageoises et même des villages qui ont été dépeuplés parce que ben, leur population devait aller travailler là où se trouvait l'usine, dans le bourg d'à côté. Ça a vraiment détruit des mondes. Donc voilà, ça a été une défaite et c'est une des raisons pour laquelle le mouvement ouvrier, à la suite de ça, il a dû changer de stratégie. Il a dû changer de stratégie pour adopter une stratégie plus réformiste. Donc alors, il y a eu deux axes qui ont été adoptés, c'est les réformes législatives, donc des réformes du fonctionnement du Parlement, des réformes des lois électorales, il y en a eu plusieurs dans les années qui ont suivi, et puis des réformes sur un plan plus économique. Et là, c'est ben, ce qui est la naissance du syndicalisme, mais tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc, il y a eu des lois sur les syndicats dans les années 20, un mouvement pour la journée de 10 heures dans les années 1850. Ce qui a fait dire à l'auteur Kirkpatrick Sale, l'auteur de La Révolte Ludite, que la Révolte Ludite, c'est la dernière lutte radicale en Angleterre. Qu'il y a eu des mouvements réformistes qui ont pu être très puissants, mais qu'il n'y en a aucun qui a dénoncé aussi radicalement l'imposition de la société du capitalisme et de la société industrielle. Pour vous donner quelques exemples de ça, en 1817, donc très peu de temps après les émeutes ludites, hein, c'est à peine 5 ans après les gros procès, il y a encore eu après des bris de machines qui ont suivi dans les années d'après, les tondeurs de draps à Leeds, donc c'est vraiment le métier le plus concerné dans la région la plus concernée, ils précisent dans une de leurs petitions qu'ils sont conscients que l'usage sans restriction des machines est nécessaire pour permettre au pays de faire face aux concurrents étrangers. Les demandes à partir de ces années-là, elles vont se tourner plus vers des restrictions de l'usage des machines ou bien vers des demandes de compensation à l'installation de machines. Et plus ça va plus être des destructions de machines ou une demande de suppression pure et simple. Voilà, un autre exemple, quelques années plus tard, en 1835, encore des tisserands, encore à Leeds, leur demande, c'est simplement qu'il y ait une taxe sur les métiers mécaniques. Vous voyez, on est rentré dans un mode qui est vraiment celui du syndicalisme et de la négociation, quoi. Par la suite, le mouvement ouvrier, ben, il va se structurer, et notamment le courant qui va devenir peut-être le plus fort dans ce mouvement ouvrier, c'est le socialisme, puis le communisme. Et c'est assez intéressant de voir ce que Marx et Engels ils disent de ce mouvement. Dès la fin des années 40, quand ils publient le manifeste du Parti communiste, ils évoquent les bris de machines du début du mouvement ouvrier et ils le considèrent comme inefficace, archaïque, conservateur, voire même réactionnaire. Et ils reviennent là-dessus dans Le Capital encore 20 ans après. Je vous lis la citation qui est assez... qui est assez édifiante sur leur rapport à cette lutte. Il explique Marx que ces luttes, elles sont vaines. Il dit « Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation. » Autrement dit, le capitalisme. Donc on voit qu'il y a un passage d'abord à des revendications sociales qui rejette complètement la critique des techniques. Et puis on voit aussi dans son discours à Marx l'idée de neutralité de la technologie. En gros, ce qui va dominer dans le mouvement socialiste, le mouvement communiste, bah, jusqu'à nos jours, hein, c'est l'idée que la technologie, il ne faut pas la combattre, mais qu'il faut la socialiser, et que socialiser la technologie, c'est ça qui permettrait d'offrir l'abondance pour tous et toutes, et voire même pour les plus audacieux, que ça permettrait de nous libérer du travail, quoi, en le faisant faire par des machines. Alors, en dehors du mouvement ouvrier, le terme ludite en lui-même. Alors, le terme, il est resté, contrairement au terme qui pouvait désigner d'autres luttes à la même époque. Et il est resté pour évoquer plus que cette histoire qui a duré, pour le noyau dur, vraiment une quinzaine de mois, quoi. Mais en fait, c'est que l'idée qu'il y avait derrière, elle a perduré jusqu'à nos jours dans le mouvement anti-industriel. D'après Kirkpatrick Sale, la plus vieille occurrence du terme luddite, en fait, elle est très récente, parce que, en tout cas, son usage comme terme générique pour désigner n'importe quelle personne qui s'oppose à des nouvelles technologies, en fait, ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est en 1956, pour désigner un député qui s'opposait à l'automatisation. Et son entrée dans les dictionnaires, au moins en anglais, c'est à la fin des années 80, quoi. Donc on voit que l'usage du terme, c'est vraiment très récent. Et c'est lié, en fait, dans ce qu'on a appelé la seconde révolution industrielle, qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. En gros, le nucléaire, les programmes spatiaux, la génétique, puis l'informatique. Et en fait, cette figure du luddite, qui a toujours été utilisée de manière péjorative, le terme, elle a servi aux défenseurs de ces nouvelles technologies à discréditer leurs opposants en amenant une figure symbolique qui est apparemment irrationnelle et surtout qui a déjà été vaincue par le passé, qui était désamorcée d'avance, quoi. Pour terminer, le luddisme, ça a été aussi, il y a eu comme un retournement du stigmate à la fin des années 80, au début des années 90, avec un mouvement néo-luddite. Ça a été assez fort, l'usage de ce terme, la reprise de ce terme dans les années 90. Je peux citer quelques exemples. Donc il y a ces gens qui se réclament d'un mouvement néo-luddite, principalement dans le monde anglo-saxon, avec par exemple il y a Chelis Glendinning, une autrice, alors je ne sais pas si elle est anglaise ou américaine, qui a écrit en 90 des notes pour un manifeste néo-luddite. Il y a eu le livre de Kirkpatrick Sale, La révolte luddite, qui part en 95 et qui s'accompagne, ça a un peu sa promotion d'une sorte de happening de l'auteur qui devant un Enfin, pendant une conférence a brisé un ordi avec un marteau, quoi, pour reprendre un peu le geste et le perpétuer, quoi. Oui. Il y a un congrès luddite en 96 aux États-Unis, et puis la référence, elle revient dans pas mal de mouvements de la critique anti-industrielle, par exemple Earth First, le mouvement écologiste radical qui sort des t-shirts avec écrit Ned Ludd Lives dessus. Des collectifs qui s'appellent les California Croppers, les tondeurs californiens, les amis de Ludd, qui est un collectif espagnol, et puis il y a eu des commémorations du bicentenaire en Angleterre et par exemple des apéros luddites aussi à une époque dans la région de Grenoble. Voilà. Donc cet héritage, il s'est perpétré, l'héritage luddite, dans le mouvement anti-industriel dont on va vous parler tout ce week-end. Et d'une certaine manière, il se perpétue jusqu'aujourd'hui et ici, puisqu'on parle encore des luddites 200 ans après. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous.
Pour la petite histoire, moi, c'était ma première traduction. Je l'ai faite il y a bien des années et j'étais très jeune et je connaissais absolument rien à ce mouvement. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé qu'avec une bande d'amis, on a appris qu'il y avait un système de reconnaissance biométrique qui avait été installé dans un lycée de la région parisienne. Et on a décidé que c'était absolument inacceptable. Cette éducation des enfants au système de reconnaissance biométrique, dont on savait que l'État voulait faire en fait un système de reconnaissance administrative généralisé. Et donc on est allé casser avec des marteaux ces bornes de reconnaissance biométrique dans ce lycée à l'heure de midi. Et donc il y a trois d'entre nous qui ont été attrapés. Et donc moi j'avais un procès pour bris de machine. Pendant ce procès, il y a un éditeur qui était bien plus cultivé que moi, aux éditions de l'Échappée, là, Guillaume Carnino, qui m'a dit « Mais tu pourrais traduire ce livre, toi qui es anglophone, sur l'hybride machine. Donc j'ai tout appris, mais ça a commencé par l'action, finalement. Et ça a donné beaucoup d'épaisseur à ce geste, qui en fait était un geste beaucoup moins intellectuel et cérébral qu'il n'en avait l'air.
Par exemple, Earth First, c'est un mouvement activiste. Et il me semble, alors je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais que les California Croppers, les tondeurs californiens, là, alors tondeurs, vous voyez, c'est en référence aux tondeurs de l'époque, hein, que c'est aussi un groupe d'activistes. Après, voilà, j'ai pas été voir plus loin. Désolé. Je ne sais pas si tu sais, toi.
Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le ludisme, il y a quelque chose d'à la fois très particulier et très général. C'est-à-dire que finalement, avec le recul, on peut se dire que la réaction ludite, qui consiste à défendre les métiers, la communauté et la coutume et les moyens de subsistance face à l'industrie qui débarque, finalement, on la retrouve... aujourd'hui encore, par exemple, moi je travaille sur les frontières extractives. Enfin, dès qu'il y a des endroits où le capitalisme n'est pas encore passé, où la vie est faiblement monétarisée, et où les gens disposent encore de leurs moyens de subsistance, quand ils sont confrontés à des projets capitalistes, une mine, forage pétrolier, etc., leur réaction ressemble beaucoup au mouvement ludite. Mais évidemment, tous ces gens qui soient en Amazonie, en Inde ou en Birmanie, ils s'en foutent complètement du mouvement ludite anglais, ils connaissent pas, et c'est pas du tout leur référence. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté à la fois très particulier et très général.
Oui, et puis aussi le mouvement ludite, on voit beau. Enfin, on l'a dit, il y a ce truc du bride machine qui est hyper visible, mais c'est loin de se limiter à ça, quoi. Il y a les pétitions, beaucoup de lettres de menaces anonymes, c'était aussi un de leurs gros modes d'action qui suffisait dans plein de cas à faire que un propriétaire d'usine en fait installait pas ses machines.
Le CLODO, donc c'était le comité pour la liquidation ou le détournement des ordinateurs. Et c'est un comité d'informaticiens, yens, on ne sait pas, qui s'est monté effectivement dans les années précédant 1984, hein, c'est assez ironique, pour contester la révolution informatique donc, dans la région toulousaine, en mettant le feu ou en faisant exploser les premières usines d'informatique, les endroits où on commençait à utiliser ça, puisque Toulouse était dès le début en fait une des places où il y avait beaucoup de production informatique. Et ils se revendiquaient assez peu ludites, les clodos eux-mêmes, parce que ils trouvaient que c'était une référence un peu à l'époque du clodo, c'est-à-dire entre 1979 et 1984, il y avait un tel tabou sur la critique des technologies que c'était compliqué de dire « oui, nous sommes un groupe néo-ludite ». Il fallait être un peu marxiste et dire que oui, en fait, les technologies, ça dépend vraiment de la manière dont on s'en sert et que globalement, c'est quand même pour la création du progrès et de l'abondance. Mais voilà, du coup, on essayait souvent de les rabattre sur le ludisme et ils disaient souvent « non mais en fait, nous, on est contre cette société consumériste, on est contre cette société de surveillance, et on voit bien que le relais de la société de consommation, c'est l'informatique. Et on ne peut pas dire qu'ils avaient complètement tort. Ils n'ont pas été attrapés. Maintenant, il y a prescription, mais on ne trouve pas de membres du Clodo qui acceptent de raconter cette histoire. C'est bien dommage parce qu'elle est très intéressante. Ça fait partie de l'effervescence politique toulousaine de la fin des années 70, où il y avait à la fois les luttes contre Franco, tout un bouillonnement anticapitaliste, voilà, lié à ça, et les luttes antinucléaires aussi, très très fortes contre la centrale de Golfech.
Et ouais, à la même époque, un peu dans les mêmes milieux qui pratiquaient la lutte armée avec une perspective marxiste, anti-impérialiste, il y a un groupe qui est assez intéressant du côté de l'Allemagne, c'est les Rotezora, qui ont mené des campagnes de sabotage, principalement des attentats, contre des centres de recherche autour des biotechnologies, avec une perspective féministe, et leurs communiqués, ils sont disponibles, et c'est assez intéressant à lire. Alors c'est un tout petit peu après, je sais pas, j'ai pas l'impression de retrouver ce que tu disais de la... Enfin, j'ai l'impression qu'elles assument plus la critique pour le coup des technologies et pas uniquement pas uniquement la lecture marxiste, quoi.
Ça allait un peu dans ce sens-là, des questions d'avant et de. Enfin, je me demandais, c'était quoi le. Enfin, est-ce qu'on pouvait faire un pont entre ludisme et sabotage? Enfin, en fait, est-ce que c'est. Par exemple, pour les Rotezora, est-ce que c'est la même chose? Enfin, est-ce qu'il y a une distinction du sabotage, ou est-ce que, en fait, c'est un truc historique Enfin, c'est pas. En vrai, je sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais est-ce qu'en fait, on parle de la même chose ou pas? Un sabotage, enfin, je veux dire, un sabotage en termes de lutte de classe pour le ludisme ou quoi. Mais voilà, est-ce que c'est pareil?
Ouais. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, le terme, il est surtout utilisé, j'ai l'impression, plus en anglais. En français, et que en anglais, c'est un terme qui désigne les oppositions à la technologie, aux nouvelles technologies, quoi. Ce qui passe pas forcément par le sabotage physique des objets, quoi. Mais c'est, si tu veux, c'est un peu comme, je pense, c'est un peu un équivalent de quand Macron dit les Amish, quoi, les Amish qui refusent la 5G. C'est un côté un peu plus large les arriérés, quoi. Je suis pas sûr que c'est y ait vraiment forcément le truc de sabotage qui soit qui vienne, enfin, que ce soit un équivalent totalement, quoi.
Moi, je trouve que c'est une très très bonne question, parce que bon, déjà, c'est pas tout à fait les mêmes références culturelles, parce que finalement, ludisme, nous on l'emprunte à l'anglais, le sabotage, les Anglais nous l'empruntent. Puisque le sabotage, ils disent, quoi, c'est le sabot pour empêcher, contraindre la machine et interrompre son fonctionnement. Et du coup, c'est pas non plus tout à fait la même époque. Donc sabotage, c'est les luttes ouvrières du début du XXe siècle, avec Émile Pouget et tout ça. Et donc, moi, j'ai toujours compris le sabotage comme étant, en fait... le moyen d'un rapport de force contre le patronat, donc qui ne remettait pas forcément en cause le système de production industrielle en tant que tel, mais plutôt empêcher la machine de fonctionner comme un moyen de faire perdre de l'argent au patron. Mais quand même, il faut nuancer, parce que finalement, à cette époque-là, une partie, le mouvement ouvrier était assez partagé sur la question de la critique du salariat, et qu'il y a toute une partie du mouvement ouvrier qui pratiquait le sabotage, qui était même contre le salariat, ce qui paraît fou, enfin, quand on pense à la CGT, ce que c'est aujourd'hui, enfin, la critique du salariat paraît quelque chose d'assez lointain. Du coup, moi je pense qu'il y a une parenté, ce serait un peu trop schématique de dire, ah bah non, le sabotage c'est la culture marxiste, ils aiment bien les machines mais ils veulent les autogérer au mieux, et puis les ludites, ils détestent les machines, etc. Je pense qu'il faut vraiment nuancer et qu'il y a des continuités quand même.
Alors d'ailleurs, puisqu'on est sur la sémantique, dans les milieux avertis aujourd'hui on ne dit plus sabotage mais désarmement. Ce qui est aussi ce qui est aussi un voilà ce qui prête à penser aussi voilà.
Je sais pas, ça donne à réfléchir cette question, parce qu'il y a plusieurs types de frontières. Par exemple, moi j'ai parlé tout à l'heure de frontières extractives, mais alors précisément, dans ce sens, la frontière désigne le contraire de ce que ça désigne en français, c'est-à-dire non pas ce qui borne, mais ce qui doit être étendu. La frontière extractive, c'est ce qu'il faut repousser pour continuer à faire l'extraction. Donc c'est pas la frontière qui borne. Donc c'est compliqué. Dans le sens anglo-saxon, le capitalisme est une frontière qui doit avancer. Une frontière qu'on doit repousser. Mais moi, ce que ça m'évoque, en tout cas ce que vous dites, c'est que, oui, clairement, il y a un monde communautaire qui s'oppose à un monde de la propriété privée. En fait, le mouvement ludite... et Kirkpatrick Sale le présente vraiment bien comme ça, c'est finalement un avatar des mouvements qui se sont opposés à l'accumulation primitive, des mouvements qui se sont opposés aux enclosures et à l'appropriation des biens communs. Et que, en 1810, le capitalisme industriel est ce qui vient borner les possibles usages communautaires à des fins d'accumulation privée, quoi. Et en ce sens, c'est une frontière. Et je pense que c'est vu comme tel.
Et ouais, c'est un constat qui peut, je pense, aussi être appliqué pour, par exemple, pour le temps qui, dans l'usine, se retrouve chronométré pour. J'imagine aussi des formes de frontières sociales qui viennent être posées et renforcées. Par rapport à aux communautés rurales pré-capitalistes ou en tout cas Kirkpatrick Sale il parle de la manière dont ça a renforcé la distinction entre classes, le mépris de classe aussi.
Alors, justement, à ce propos, nous ne pouvons que vous recommander les excellents écrits de François Jarige, le professeur spécialiste des mouvements de résistance aux machines, bourguignon en plus. Mais moi, j'ai eu la chance qui a écrit ce fabuleux livre, Technocritique. Mais c'est vrai qu'avec quelques décennies, et parfois même des demi-siècles ou des siècles d'écart, oui, en fait, dans toute l'Europe, on trouve des mouvements semblables. Et en France, oui, bien sûr, plus tard, les Canuts de Lyon, qui s'oppose à la surexploitation que va représenter l'introduction des métiers à tisser mécanique dans l'industrie du textile à Lyon. Et alors moi, j'ai eu la chance de traduire un texte qui est consacré à ça, en tout cas au mouvement ludite en France. Donc oui, 50 ans plus tard, eh ben, on voit des choses très très semblables, par exemple dans le sud de la France, des communautés villageoises vont s'opposer à l'arrivée d'un entrepreneur industriel qui va ouvrir son usine et qui va en fait accaparer le savoir-faire et le marchandiser. Et donc, avec des formes d'action assez carnavalesques, on va là-bas, on prend des machines, on prend un métier à tisser. C'est arrivé à Clermont-l'Hérault, je crois que c'était 1840, il me semble. On traîne les machines dans la rivière. Parfois, les hommes sont déguisés en femmes. Il y a toute une utilisation des codes de la fête et de la transgression. Et avec parfois occupation, prise d'assaut de la mairie ou des bâtiments officiels où on va brûler les archives. Donc on trouve des traces de ça. Et je sais qu'il y a... Il y a ça aussi en Allemagne, mais je ne connais pas du tout.
Voilà, pour donner un exemple du livre de François Jarige, en Normandie en particulier, où sont introduites les mécaniques anglaises, des destructions ont lieu à la fin du XVIIIe siècle. À Falaise, en novembre 1788, 2000 ouvriers armés de bâtons s'attaquent à une machine à filer le coton. L'année suivante, à Rouen, les troubles se répètent de juillet à octobre 1789. Le 14 juillet, 300 à 400 personnes envahissent une filature et y détruisent 30 métiers mécaniques. Le même jour, une autre machine est saccagée et ses débris jetés dans un bûcher expiatoire en plein cœur de la ville. D'autres mécaniques sont attaquées durant l'été. Il y en a un certain nombre de pages qui citent des exemples de toute la période et un peu dans toute l'Europe au gré de l'avancée de ces technologies en fait.
Comme la question des révoltes contre l'industrialisme, en fait, c'était vraiment un tabou. Enfin, c'est quelque chose dont le monde de la recherche ne s'est pas vraiment emparé jusqu'à assez récemment. Ne le cherchant pas, les gens ne l'ont pas spécialement trouvé. Mais c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ça, on s'aperçoit que c'est des réactions assez fréquentes. Par exemple, moi, je regardais ce qui s'était passé près de chez moi. Alors, j'habite dans le Tarn. À côté, il y a l'Aveyron. Et dans ce département, il y a un grand bassin charbonnier, bassin houillé. Et donc là, comme dans plein d'endroits, les industriels, la bourgeoisie, l'État, ils ont voulu installer une réplique de la révolution industrielle anglaise. Donc ils ont dit, c'est très bien, il y a du charbon, il y a du fer, on va faire de la sidérurgie et ce sera super. Et donc, à La Salle, qui maintenant s'appelle De Casseville, en Aveyron, pendant toute une partie de la fin du XVIIIe siècle, il y a des industriels qui ont essayé d'extraire du charbon là-bas. Et en fait, il y avait des usages locaux des charbonniers. Ils utilisaient le charbon d'une autre manière. Voilà, c'est pas du tout extractiviste, même si c'était de l'extraction. Et j'ai lu récemment qu'il y avait une armée de 5000 personnes qui s'étaient opposées aux machines qui avaient commencé à installer des bourgeois parisiens qui avaient eu un permis en bonne et due forme et qui les avaient chassés, quoi. Donc ils avaient dû remballer, etc.
En fait, avant de commencer la discussion, on se demandait pourquoi c'était la lutte des ludites dont on avait gardé le nom, parce qu'en fait, il y en a eu énormément dans plein d'endroits, quoi. Ce qu'on supposait, c'est que, étant donné que c'est une des premières, avec une ampleur particulièrement grande, et qui en plus a eu lieu en plein cœur de la naissance du monde capitaliste et industriel, elle a plus marqué les esprits, quoi. Mais c'est loin d'être la seule. Alors, moi, j'ai l'impression que plutôt pas du tout, et que plutôt les gouvernements et les régimes successifs, en fait, étaient tous quand même plutôt acquis au capitalisme, au libéralisme. Et donc, en plus, c'est ce qu'on disait, en fait, à chaque fois que des luttes sont écrasées, en fait, on écrase en même temps la possibilité de critiquer les technologies. En fait, c'est des critiques qui restent assez marginales, quoi. Et donc, plutôt, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de régime qui est revenu sur des avancées techniques. Il y a eu plein de résistances locales, mais jamais, en tout cas, au niveau des États, quoi.
Ça dépend vraiment de quelle époque on parle, parce que évidemment cette grille de lecture elle fonctionne pas du tout pour le 19e siècle en Angleterre. Enfin, on peut seulement y réfléchir à partir de maintenant ou à partir de 1950, mais du coup les ludites de Nottingham, va savoir s'ils étaient de gauche ou de droite, la question n'a pas vraiment de sens pour eux.
Je sais pas exactement ce qu'ils en disaient. Je sais pas non plus ce qu'on disait les contre-révolutionnaires, genre de Maistre ou non, mais peu importe. En tout cas, il y a par exemple cette espèce d'idée reçue sur laquelle les nazis, Hitler auraient été écologistes, selon laquelle ils auraient été pour des formes de retour à un ordre naturel. Bon, c'est un argument qui est parfois opposé aux critiques de la technologie, sauf que si dans les discours il peut y avoir des choses qui apparaissent comme ça, dans les faits, c'est tout l'inverse qui s'est réalisé. Je veux dire, Hitler, il a fait que renforcer l'industrialisation, renforcer l'aménagement du territoire avec des énormes projets. Voilà, il y a la même chose qui peut être dite parfois sur Pétain ou sur d'autres régimes d'extrême droite. Le fait est que concrètement, non, ils ont accéléré la marche des technologies, quoi. Non, mais on pourrait s'interroger, je ne sais pas, par exemple, dans la Nouvelle Droite, peut-être, c'est possible qu'il y ait des critiques des technologies chez les penseurs de la Nouvelle Droite. Les Douguines ou les. Ouais, je ne peux pas répondre plus précisément. Il y avait une question là-bas? Ouais. Il y a le Captain Swing. Et, tu peux en dire un peu plus? Moi, je ne connais pas trop bien ça.
Captain Swing, c'est un peu la même histoire. C'est un mouvement post-ludite, 1830, contre les batteuses mécaniques dans le sud de l'Angleterre. Et effectivement, là aussi, s'organisent sous l'égide d'un chef imaginaire qui est The Captain Swing, qui n'existe pas. Moi, je disais tout à l'heure en rigolant, c'est peut-être une des raisons du succès, de la postérité du ludisme, cette histoire de chef imaginaire. C'est quand même à la fois stratégiquement et symboliquement très fort. Enfin, je pense que c'est une des choses qu'on peut retenir si on veut avoir une discussion un peu opérationnelle sur qu'est-ce qui fonctionne. Ben, ça fonctionne très bien. Enfin, on voit dans le récit de Kirkpatrick Sale à quel point les autorités anglaises ont du mal à mener leur opération parce qu'ils cherchent un chef, parce qu'eux, ils ont une vision verticale des mouvements qui n'existe pas. Et en même temps, on voit à quel point cette imagerie un petit peu sarcastique, un petit peu humoristique, elle perdure dans le temps, elle est drôle. Et pour moi, une des incarnations... une des images les plus récentes de ça, c'est le sous-commandant Marcos, en fait, dans les mouvements zapatistes. Effectivement, qui est une figure d'autorité complètement évanescente. On joue avec les codes du chef et puis finalement, on ne le trouve pas.
Mais il existe. Il a existé.
C'était juste pour une clarification. Avant, en parlant de la Tarn, tu parlais de la personne qui arrivait avec une politique extractiviste et que les autres aussi avaient une politique extractiviste, mais pas extractiviste, tu avais dit. Et du coup, je ne comprenais pas vraiment la différence.
Non, mais merci, très bonne question. Je ne voulais pas m'étendre. Et alors, donc ça se passe dans l'Aveyron. Et dans l'Aveyron, il y a un grand bassin industriel maintenant complètement sinistré, qui est donc le bassin de Viviers de Casseville, où il y a eu une grande extraction de charbon à partir du 1830 à peu près, et ensuite de zinc. C'est devenu le centre français de la métallurgie du zinc. Donc aujourd'hui, c'est une zone vraiment très 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 polluée, où il y a très peu d'emplois, et en fait, le business local maintenant, c'est de dire « Ok, si vous avez des déchets dangereux, venez les enfouir chez nous ». Et donc c'est là d'ailleurs où il y a quelques mois, il y a 9000 tonnes de batteries lithium qui étaient stockées pour recyclage, qui ont brûlé et qui ont créé un incendie probablement très toxique dans tout ce bassin. Et donc, ce à quoi je faisais allusion, c'est que l'utilisation des charbonnières, elle est très ancienne. Et il y avait un usage, disons, local et communautaire de cette ressource qui était fait, apparemment, à la Sala de Casseville. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paysans, les paysannes allaient extraire un peu de charbon de temps en temps quand ils ne travaillaient pas au champ et qu'ils l'utilisaient comme combustible. Et je dis, c'est de l'extraction, mais ce n'est pas extractiviste au sens à ce qu'on va voir avec le modèle industriel qui est « Ok, nous avons un gisement de charbon et donc on va tout prendre le plus vite possible en installant l'infrastructure qui va bien pour accumuler le plus de profits possible. » C'est de l'extraction aussi, mais c'est un tout autre modèle qui ne se soucie pas du tout du lendemain, qui est fondé sur un usage intensif et marchand, quoi.
Alors, Kirkpatrick Sale le fait de manière assez détaillée. Je ne sais pas si je vais lire la note en entier, ça peut être un peu fastidieux, mais voilà. J'estime qu'entre novembre 1811 et janvier 1813 dans la région de Nottingham, 1200 métiers à tricoter les bas d'une, 1200 métiers à tricoter les bas ont été détruits pour une valeur de 39 600 livres. Un nombre de métiers approximatif de métiers à dentelle, plus de 50 métiers à bobinette pour un total d'environ 7500 livres, Une fabrique d'une valeur estimée à 8500 livres a été détruite en entier. Une autre fut endommagée à hauteur de 700 et 500 livres de draps furent abîmés. Voilà, il en arrive à... voilà, ce qui, un total des dégâts dans le triangle Ludite, 108 300 livres. Voilà, malheureusement, je ne sais pas combien ça fait des livres de l'époque par rapport à la somme actuelle, mais je pense que c'est une somme quand même très très élevée.
Oui, pour avoir une idée, Kirkpatrick Sale, il raconte l'épisode de mai 1812, où il dit, il y avait un poème qui était affiché un peu partout dans la ville de Nottingham à cette période-là. « Ned Ludd, ta cause est juste, bienvenue à toi. Tu peux bien prendre Perceval pour cible, puisque d'après la nouvelle loi... qui casse un métier de mort est passible. Spencer Perceval, c'est le premier ministre. Tu peux bien prendre Perceval pour cible, c'est le premier ministre. Les bonnetiers pour tuer sont les plus adroits. Ils ne valent pas mieux que les autres. Tu périras, c'est ce que dit la dernière loi. Alors vas-y mon gars. Puisqu'on peut te retrouver pendu à un poteau pour une machine brisée, alors sors ton épée de ton fourreau, rends-la bien pointue et bien aiguisée. Nous sommes prêts à rejoindre le combat, à répondre à l'appel. Peu importe quand, faisons couler le sang des scélérats, de tous les tyrans petits et grands. Et Kirkpatrick Sale dit, 2 jours plus tard à Londres, le premier ministre, Spencer Perceval, était tué d'une balle. L'Angleterre n'avait jamais été aussi proche d'une révolution. L'Angleterre n'a pas connu de révolution, elle a connu des révolutions, disons, parlementaristes, mais pas de révolution violente. Et il dit, à cette époque, en Angleterre, le mouvement ludite avait créé un climat insurrectionnel, voilà, qui à ce moment-là était, à son apogée, quoi.
Voilà, à part ça, il y a eu donc une usine qui a été entièrement brûlée, il y a eu le meurtre de au moins un propriétaire d'usine, voilà. Ouais. En gros, faut imaginer le nord de l'Angleterre, à peu près, en gros au niveau de Manchester et Liverpool, c'est à peu près à ce niveau-là quoi au nord, c'est Newcastle, Leeds, Nottingham.
Centre
nord, ouais.
Ah ben alors oui, petite annonce pour proposition de discussion très intéressante sur le soulèvement en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Très intéressant parce qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie, c'est la grande industrie du nickel qui est d'autant plus importante comme industrie coloniale aujourd'hui que le nickel entre dans la composition des batteries des véhicules électriques. Et donc s'il y a bien un moment où la métropole, la France, ne veut pas lâcher la Nouvelle-Calédonie, c'est maintenant où en plus vient d'être adoptée une nouvelle loi européenne sur les matières premières qui donne pour objectif que 10% des matières premières consommées en Europe soient extraites en Europe. Donc vous me direz 10% c'est pas beaucoup. Mais en fait, le nickel de Nouvelle-Calédonie, il compte pour une extraction européenne, puisque c'est une colonie française. Donc voilà, il y a une dimension vraiment stratégique très très importante. Et alors là, j'espère que quelqu'un connaîtra mieux que moi, mais ce que je connais de l'enjeu de ces jours-ci, c'est juste le fait qu'il y avait un règlement qui voulait que les Calédoniens comptaient double dans les votes locaux par rapport aux personnes d'origine métropolitaine. Et que, en gros, le gouvernement de Macron veut remettre en cause ce principe-là et faire adopter un système dans lequel chaque voix compte pareil. Ce qui, voilà, évidemment, pour les enjeux de l'indépendance, change tout, quoi. Mais j'espère que quelqu'un connaît mieux.
Oui, en fait, ça avait été ce truc électoral, ça avait été acquis par... il y a eu une guerre civile dans les années 80 en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes ont obtenu ce gel du corps électoral, quoi, pour éviter une submersion coloniale, quoi. Ces accords, ils se terminaient donc 20 ans après, ou 30 ans après. Donc c'était en 2018, entre 2018 et 2020, avec trois référendums qui se suivaient. C'était censé régler la question, quoi. Ils ont eu lieu, ils ont été perdus par les indépendantistes, sauf que le dernier, il a eu lieu pendant le Covid, donc il est énormément contesté parce qu'ils n'ont pas pu faire campagne. Ils demandaient un report de 9 mois qui leur a été refusé. Et c'est aussi ça qui provoque l'énorme colère là maintenant, qui est le vote de cette loi, qui en fait va écraser les espoirs d'une indépendance qui pourrait arriver par la voie des urnes, quoi.